Paul Hervieux, prologue de l'incendie de Sodome, conte inachevé et en ruine. En exergue, le Seigneur apparut un jour à Abraham sous la figure de trois hommes qui s'en allaient à Sodome. Genèse chapitre 18. La lune est en pleine dans le signe du cancer, une lumière limpide et souple inondait à Nice, la capitale choisie par Rixus, vainqueur. Parvenu à l'apogée de son ascension nocturne et gardé par la constellation du grand chien, la divine Isis dormait dans le ciel pur. La lueur de son ventre, arrondie par la fécondation d'Osiris, illuminait, sur les bords des avenues, la barbe grise des sphinx de granit. Dans le quartier des riches villas, Niébès, le dernier descendant des pharaons détrônés, veillait avec ses deux amis sur la terrasse de sa maison blanche. En souvenir de sa noble origine, il portait, dans la ceinture brodée qui plissait vivement sa chenti, le royal poignard de bronze à tête d'épervier. Les trois compagnons étaient étendus sur un amas de coussins quadrillés et de tapis historiés, à l'abri d'une moustiquaire de gaz sillonnée de fils d'or, que soutenaient quatre colonnettes de bois jaune et brillant. Autour d'eux, les tabourets de cèdre, chargés de figurines en verre, de gobelets, de flacons, où scintillait la liqueur et l'essence parfumée, et ici traînait un échiquier d'ivoire, et là brillait un miroir d'acier. Nul ne parlait. Mais chacun sentait un goût pervers sur sa langue, comme après avoir mangé le fruit du sycomore. Ils songeaient au lointain pays d'Orient pour lequel ils allaient se mettre en voyage sur la foi d'un esclave asiatique, et tout abandonner de leur vie passée et présente, à la mystérieuse Sodome dans la vallée des bois. Le prêtre Tlas, déjà savant dans les antiques hiéroglyphes, faisait distraitement jouer ensemble la petite lionne noire qui s'appelait Chienne et la grande chienne fauve qui s'appelait Lionne. Des sourires muets desserraient ses lèvres lorsqu'il croisait son regard avec celui de Saïs, le poète pauvre et timide dont personne n'ignorait pourtant la chanson de Rose ni la marche de la momie. Dans les prunelles de ce dernier et la vigilante flamme de ses envies, c'était par prodige éteinte. Il parcourait d'un œil négligent les splendeurs du jardin, sous la clarté lunaire, les herbes rares, les fleurs épanouies, les citronniers dans leurs vases d'argile rouge, les acacias chargés d'un peuple d'oiseaux charmeurs et chanteurs qui s'éveilleraient avec l'aurore, et courant parmi les végétations précieuses, des rigoles d'eau fraîche détournées du Nil auxquelles les solstices d'hiver venaient de restituer sa pâleur bleue. Et Niébès contemplait obstinément la bague de jaspe vert marquée du scarabée qui pesait à l'index de sa longue main droite. Ainsi, à la longue, les beaux jeunes gens s'assoupirent. Des apparitions promenèrent alors leur forme et leur couleur dans les coquilles sombres des paupières qui s'étaient abaissées. C'étaient les rêves centuples de leur puberté. Une femme passait d'abord avec des yeux ovales et noirs, des cheveux traînants, des hanches creuses, des seins durs et pointus. Elle savait danser à la mode étrangère, la tête renversée et le ventre tendu comme une peau de tambourin. Et dès que cette ombre blanche s'était évanouie, une autre venait, plus blanche encore, ignorante de tout art, avec des gestes humbles, des épaules rondes, des cuisses fraîches et resplendissantes comme le lotus, la bouche pleine de riz et le regard promptement noyé de larmes. Puis un paysage s'ébauchait autour de sources claires, jonchées de petites pétales roses. Des arbres inconnus déployaient sous l'azur leurs feuillages effilés, qui merveilleusement brunissaient, blondissaient, roussissaient comme des chevelures. À l'extrémité de chaque rameau, un visage délicieux commençait à fleurir, des seins bourgeonnaient. Mais lorsque le vaste fruit féminin avait achevé de mûrir, les branches trop chargées renversaient le poids odorant sur le sol. et les trois amis, dans leur sommeil, tendaient fiévreusement les bras pour faire la récolte de ce verger idéal et déjà disparu. Ensuite avait surgi une ville immense qui s'étendait à perte de vue entre les deux pans de l'arc-en-ciel. Et un vol de femmes ailées s'abattait comme des kailas sur la toiture des monuments. Là-haut, elles gisaient inertes, incapables de s'échapper, impossibles à rejoindre. Et Niébès, Saïs et Tlas tordaient et croisaient leurs jambes avec une rage passionnée, comme s'ils eussent essayé de monter à des colonnes de marbre. Mais brusquement, la ville s'engloutit, et à sa place, des champs de billets s'élevèrent, des mimosas gigantesques et des vignes rougissantes dont les grappes gonflées pendaient vers la terre. Et des compagnies de femmes nues, couchées sur le dos, leurs corps chatouillés, mouchetés de noir par les fourmis vagabondes, têtaient, morts d'ivresse, les grains obscènes du raisin. À ce spectacle, les trois compagnons remuèrent éperdument leurs lèvres avec un cri aigu, comme celui des nouveau-nés, et ils s'éveillèrent dans un même spasme. Parmi eux, la lionne et la chienne grondaient à une approche. De leurs yeux encore troubles, ils reconnurent la face belle comme le vice et équivoque de l'esclave Jeter. La barbe de celui-ci était pointée en signe de servitude. Sur son front cicatrisé, le fer en feu avait fraîchement gravé l'attribut du sexe qui n'était point le sien, selon l'usage à l'égard des ennemis lâches et des captifs obtenus sans combat. « Maître, dit-il en se prosternant, le nouveau venu, les hommes attendent. Il est l'heure de se mettre en route. »« Bien, répondit Niébès, nous n'oublierons rien puisque nous laissons tout. » Les amis se levèrent en délivrant leurs membres jeunes, et Jeter changea sur ses épaules deux sacs d'or préparés, et tous aussitôt descendirent. La lionne et la chienne, restées seules sur la terrasse, regardèrent au dehors avec la curiosité grave des bêtes lorsqu'elles entendirent se refermer lourdement le bronze de la porte extérieure. Les voies étaient désertes. Par instants, des bruits vagues troublaient le majestueux silence de la ville. Tantôt la vocifération impie d'un tariqueut qui s'était enivré de vin d'orge tout en salant des morts pendant l'ardeur du jour, tantôt les rauques miaulements de chats sacrés qui, hérissant leurs poils, se pourchassaient sur les pylônes des temples et le long des mâts multicolores dont la banderole immobile décorait les seuils religieux. L'esclave marchait en avant d'une allure rapide. Parfois, il se retournait pour inviter les jeunes hommes à le suivre, en fronçant par une étrange expression ses épais sourcils. Et ils accéléraient leurs pas, fascinés par cet tressaillement de la plaie symbolique. Ils suivirent le Nil, dont les bords étaient boisés de raies roseaux que surmontaient des houppes de papyrus. Ils étaient déjà loin de la ville lorsqu'ils arrivèrent à une caravane de marchands cananéens, dont les chameaux et les ânes, déchargés, dormaient debout. Les gens éveillés riaient entre eux, gais et fiers, d'avoir vendu en contrebande leurs provisions de gomme d'encens et de baume, les bracelets de pied, les robes peintes, le fard vert et la poudre pour agrandir les yeux. Jeter remit le prix convenu au chef de la caravane. Les jeunes gens se hissèrent sur des montures et la troupe se mit promptement en marche pour atteindre la première oasis avant le lever du jour. Déjà, l'étoile de Sodome commençait à pâlir au ciel. Le prêtre Tlas leva les bras vers l'horizon oriental où devait bientôt poindre l'avant de la barque du soleil. « Ô Dieu matin ! » s'écria-t-il, « Créateur des êtres, tu es haut, tu es fort. Donne chaque jour des pains à notre ventre, de l'eau à notre gosier, des parfums à notre chevelure. Ô véridique, resplendissant, flamboyant !» Niébès reprit. « Ô Seigneur des années, fais que l'usurpateur de mon trône tombe en mon absence dans le feu. Pour mes compagnons et moi, fait que nous suivions toujours notre désir et que nous ne cessions de vider la coupe de la joie, ni de célébrer les fêtes. Après avoir réfléchi, Saïs dit « Écoutez ces vers que je viens de composer sur le caractère du dieu Ra, tel que je les conçois. Assis dans sa maison lumineuse, il entendit trois jeunes gens implorer ses bienfaits. « Ah 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 » fit-il, « j'enverrai contre eux les crocodiles, les vagues de sable et les brigands. » Mais bientôt notre prière, plus nombreuse, plus ardente, parvint aux oreilles du roi. C'étaient les héritiers de Niébès, les collègues d'Atlas, les ébules de Saïs qui murmuraient « Ô souverain sur la terre, envoie contre les voyageurs les crocodiles, les vagues de sable. » Le dieu Ra fit encore « Ah 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 !» Puisqu'il en est ainsi, les trois jeunes gens recevront mes bienfaits. Voici comment, cheva Saïs, je m'explique le caractère de la divinité. Cette pièce fut accueillie par des exclamations flatteuses. Jeter lui-même, qui avait appris l'idiome de Tanis, se retourna vers le poète en éclatant de rire. Depuis le départ de sa ville de servitude, il se sentait libre. Il se montrait déjà d'humeur hardie et familière. Mais Saïs et ses amis étaient redevenus graves. Et l'esclave continua de marcher longtemps à reculons, cachant souvent son front sous la paume de sa main, provoquant effarouché sous la fixité des regards qui s'attachaient à la mutilation attirante, au signe malheur des hommes, au mystère épanoui, sous ses cheveux annelés.